de l'art dans la soupe. La chronique qui parle histoire de l'art.
Dans 50 ans, les œuvres d'art seront reçues par les jeunes comme des choses qui n'appartiennent à personne. Vous aurez la télé comme un moyen de connaissance, parce que par la force des choses, un garçon de 18 ans aura vu tous les grands chefs-d'œuvre.
Bienvenue dans De l'art dans la soupe, le rendez-vous bimestriel d'Histoire de l'art. Je suis Camille, je travaille au service culturel de la ville d'Ussel, notamment en charge de sa microfolie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'influence artistique qu'a eu le Japon sur l'Occident. Manga, rap, sushi, estampes, les domaines dans lesquels le Japon se retrouve en Europe sont bien nombreux aujourd'hui et une vraie Japan Fever déferle sur la jeune génération. Mais ce n'est pas de cette vague-là dont nous allons parler aujourd'hui, mais de celle qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Le Japon vivait enclavé et déconnecté du reste du monde. Mais en 1854, avec l'avènement de l'ère Meiji, le Japon s'ouvre à l'Occident et au commerce. Des estampes, des porcelaines, des paravents japonais se retrouvent dans les vitrines de certains grands magasins parisiens. C'est aussi le temps des expositions universelles, et le pavillon japonais va bientôt attirer les foules et concentrer toute l'attention. En effet, ce n'est pas seulement une nouvelle esthétique que l'on découvre dans les objets d'art et d'artisanat japonais, mais c'est aussi toute une philosophie de vie et une nouvelle façon de concevoir la nature. Il est désormais possible d'acquérir pour peu cher des estampes des grands maîtres de l'okiyo-e, qui peut être traduit par « image du monde flottant » et que l'on nomme en France « estampe ». Certains artistes vont constituer d'immenses collections, à l'image de Van Gogh, qui en possédera plus de 600. Les artistes européens s'emparent de ces nouveaux codes dans leur production. Le critique Pierre Bourty invente en 1872 le terme de « japonisme ». Avec la colonisation occidentale à travers le monde, les Européens développent une sorte de condescendance à l'égard des cultures des peuples soumis, y cherchant principalement un exotisme. Le japonisme s'en distingue par le fait qu'il ne s'inspire pas d'un peuple colonisé et que les artistes cherchent à en assimiler les codes, tout en gardant leur propre identité artistique. En 1888, de jeunes peintres se donnent entre eux le nom de Nabi, prophète en hébreu. Parmi eux, des artistes tels que Pierre Bonnard, Félix Vallotton, Édouard Vuillard et Paul Sérusier. Lassés de l'impressionnisme qu'ils jugent superficiel, ils désirent retrouver les sensations primitives. Ils se considèrent les disciples de Gauguin et de Cézanne et seront les chefs de file du japonisme. Le japonisme bouleverse les codes de l'art occidental. La recherche de la perspective parfaite est abandonnée au profit d'une succession de plans plus simples, les couleurs sont appliquées en aplats et les formes cernées de noir permettent de faire exploser cette couleur. La nature est représentée de façon très poétique et se stylise pour devenir un motif qui envahit les compositions. Le cadrage est aussi chamboulé, le sujet n'est plus centré au milieu de la toile et une place plus importante est laissée au vide, dont on redécouvre la poésie. On se met à suivre le cours des saisons, bercé par le principe bouddhiste de l'impermanence des choses. Van Gogh dira « Il faut appauvrir l'extérieur pour atteindre un enrichissement intérieur. C'est ce qui manque à l'art occidental. » Le support évolue lui aussi. La simple toile n'est plus à la mode. On peint sur des éventails, sur des panneaux, et les formats s'allongent pour ressembler à ceux des kakémonos japonais. Pour une petite virée au Japon, nous écoutons le duo pop Yoasobi.
Ah,
Le japonisme ne durera qu'une trentaine d'années, de 1870 à 1900, mais nombre d'artistes s'y réfugieront. Edgar Degas, qui, dans son portrait de James Tissot, accrochera au mur un paravent peint de geisha, James Tissot lui-même, dont les personnages de femmes se mettront à admirer la délicatesse des objets japonais, Alfred Stevens, dont la modèle parisienne prendra l'allure d'une geisha au kimono et à l'éventail. Certains, à l'instar de Gauguin, n'hésitent pas à déstructurer la toile, découpant le sujet et l'apposant comme s'il était collé sur un fond purement décoratif. Et quand Van Gogh représente son marchand de couleurs parisien, le père Tanguy, c'est le mont Fuji qui apparaît en fond. Les femmes aussi se mettent au diapason de cette nouvelle mode. Marie Cassatt, peintre franco-américaine, amie des impressionnistes sans s'en revendiquer, donne un air japonais à ses femmes et à ses intérieurs réalisés à l'aquatinte, cette délicate technique de gravure. Les arts décoratifs ne restent pas à la marge de cette tendance et de grands noms comme Émile Gallet ou Eugène Rousseau insèrent les carpes et les fleurs orientales dans leurs vases et leur marqueterie de meubles. Partons maintenant à la découverte d'une œuvre. Que vous jardiniez ou que vous rouliez, prenez le temps d'entrer dans ce musée imaginaire où il fait juste frais et de vous asseoir sur le banc en face de cette toile. Ce que vous voyez, c'est un tableau au format paysage. Deux hommes semblent se battre, se tenant aux épaules et entremêlant leurs jambes pour se faire tomber. Au sol, un grand aplat jaune-vert, uniforme, peut-être de l'herbe ou du sable. En arrière-plan, une foule de spectateurs, surtout des femmes, en tenue traditionnelle avec des coiffes et de longues robes noires. Elles regardent le combat. Les traits du dessin sont naïfs et les corps entourés d'un léger trait noir. La perspective n'est pas respectée. Le sol, purement décoratif, prend une grande place sur la toile. Sommes-nous au Japon, en Europe ? Pas facile de le savoir au premier regard. C'est parce que Paul Sérusier, qui a peint cette toile, La lutte bretonne, en 1888, veut intégrer pleinement les codes de l'estampe à son art, tout en représentant un thème bien français, un match de gourène, un sport traditionnel breton, qui, comme le sumo d'ailleurs, consiste à faire tomber son adversaire au sol en s'aidant de ses mains. Sérusier séjourne régulièrement en Bretagne, la région étant considérée à l'époque par les artistes de l'école de Pont-Aven comme le conservatoire des traditions ancestrales, épargné par le progrès industriel. Pour contempler cette toile en vrai, c'est au musée d'Orsay que ça se passe, et en version numérique à la Microfolie Lagrange d'Ussel en mai et juin. Comme toutes les modes, le japonisme a fini par s'éteindre, considéré par les artistes comme ringard le jour où il a commencé à envahir les objets de masse et à se retrouver dans toutes les maisons. Le prochain grand style sera l'art nouveau, dans les années 1920, mais celui-ci est bien le fils du japonisme. Les silhouettes de femmes prennent la pose des geishas, les supports de peinture se veulent plus libres, et la nature stylisée trouve bien son origine dans l'art japonais. Comme je le disais au début de cette chronique, cette fièvre japonaise est encore bien présente, quoique sous des formes différentes, aujourd'hui, en Europe. Nous nous quittons sur cette musique de Jules, « Je veux que toi ». Tendez l'oreille, le Japon y est aussi présent que Marseille.
Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Je me suis endormi à côté du katana. Est-ce que j'ai fait le traitement, nana? Une poussée dans le check, ça fait ratata. Ça les vend. Ça l'est des Prada. M'appelle quand t'as des pépins. Là-bas, tu fais gros mais t'éteins. Nada, moi j'fais des manières. Ça me va, j'fais ce but tout. J'ai mille U en mode Strada. Fais le Golgot, tu fais le bandido. Ça monte pour le buzz, c'est des gros mythos. Faut des max de l'emboliote, l'hélico. T'es une bonne personne, pourquoi tu fais le vito? Faut job
bébé pour mettre bien mamacita. Petite maison bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Au guichet, ça te fait la tête. Tu m'appelles, c'est fait. C'est vrai que t'es pas net, toi. T'es sur quelle planète, toi? Gros, t'as pas de gana. T'es là, tu fais des menaces. T'as rien dans la tête. En plus, tu fais le tenace. Tu me fais le mainstream pour de bon. Tu dois la lime. Pas comme ça. T'es plein de problèmes, mon sang. Y'en a marre. Celle-là, c'est pour ceux un TP à la barre. Tu me fais le mainstream pour de bon. Tu dois la lime. Pas comme ça, t'es plein de problèmes, mon sang, y'en a marre. Celle-là, c'est pour ceux un TP à la barre. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi, ma chiquita. Est-ce que j'ai fait le traitement, nana? Une poussée dans le check, ça ferait tata. Ça les vend en croix, ça salit les Prada.
Pour en savoir plus sur ce thème fondamental de l'histoire de l'art, rendez-vous à la Microfolie Lagrange, place de la République à Ussel, du 2 mai au 27 juin, pour rencontrer 10 chefs-d'œuvre des grands musées français. L'exposition « Rêve de Japon », qui se tient à la Microfolie, fera écho à l'exposition « Les mondes flottants du Japon », qui se tiendra sur la même période au musée du Pays d'Ussel. Des ateliers pour enfants, ados et adultes sur les techniques de l'art japonais seront proposés à la Microfolie. On se retrouve fin juin sur les ondes de Radio Vassivière dans De l'art dans la soupe pour parler des grandes artistes du XXe siècle. Et d'ici là, sayonara !